La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour.
100 jours de contestation en Biélorussie et le président Alexandre Loukachenko ne semble décidément pas prêt à céder le pouvoir.
Il l'a d'ailleurs redit ces derniers jours encore à des médias officiels triés sur le volet pour ne surtout pas poser de questions qui fâchent. À lire sur le site d'info indépendant Navini, l'homme qui préside la Biélorussie depuis 27 ans ne voit pas pourquoi il céderait la place avant d'avoir décidé de lui-même quand le moment sera vraiment opportun. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Alexandre Loukachenko ne semble pas trouver le moment opportun 100 jours aujourd'hui après cette élection présidentielle qui a vu sa réélection contesté et qui a fait entrer en dissidence toute une frange de la population biélorusse réclamant du changement. Enfin, pour le 99e jour de cette contestation, donc ce dimanche, les habituels milliers d'opposants étaient descendus dans les rues de Minsk. Mais ce rassemblement-là n'en était pas un de plus, un de ceux qui, à force de se répéter chaque dimanche depuis 3 mois, ne font même plus lever un sourcil à nous autres voisins européens. Non, explique la Deutsche Welle allemande, ce 15 novembre, il y avait un cas de force majeure pour venir une nouvelle fois faire face aux policiers anti-émeutes. Il fallait honorer la mémoire d'un manifestant tué 3 jours plus tôt pour avoir lui aussi exigé le départ de l'autocrate biélorusse. Roman Bondarenko avait 31 ans. Il était artiste et d'après le récit que fait le quotidien russe Novaya Gazeta de ces dernières heures, il a été battu à mort par des jeunes militants pro-Loukachenko, vraisemblablement aidés par des agents des services de sécurité en civil, qu'il a surpris en train d'arracher des drapeaux de l'opposition sur une des places où se déroulent les manifestations depuis 3 mois.
Et juste avant cela, Roman Bondarenko avait écrit « Je sors, je vais faire un tour sur la messagerie Telegram pour prévenir ses compagnons de lutte ».
Oui, ce sont là ses derniers mots et c'est très vite devenu un mot d'ordre pour ceux qui poursuivent la contestation. Sortir, reprendre la rue, ne pas se laisser intimider par ces semaines de répression, de violence, d'humiliation, les milliers d'arrestations et les récits de ceux qui ont été arrêtés subissent en détention. Pas plus tard qu'hier, raconte le site tout.by, quand les policiers ont fondu sur les rassemblements pacifiques en hommage à Roman Bondarenko, on a dénombré environ 1 millier d'arrestations du jamais vu en une seule journée depuis le mois d'août. Plus d'un millier même, selon la BBC qui cite l'organisation biélorusse de défense des droits humains Viasna, selon laquelle les mobilisations et les répressions similaires se sont pour déroulées hier également dans de nombreuses villes du pays de Biélorussie et pas seulement dans la capitale Minsk. Alors forcément il y a cette question qui vient à l'esprit de la BBC comme de la Deutsche Welle, la mort de Roman Bondarenko peut-elle être un tournant dans la mobilisation pour exiger le départ de Loukachenko? Ce dernier se sent-il plus menacé que ces 3 derniers mois, alors que l'Union européenne vient enfin de le placer, lui et son fils, sur la liste des sanctions appliquées aux dirigeants biélorusses? L'autocrate, en tout cas, a fait mener ce dimanche une répression encore plus forte que ces dernières semaines, même s'il se vante dans l'interview qu'il a donnée aux médias qui lui sont restés loyaux et cités par tout.by d'avoir jusque-là retenu ses forces de sécurité, de faire un véritable carnage. Voilà qui sonne bien comme une menace et qui rejoint tout à fait ce que le New York Times écrivait vendredi sur le système de terreur organisée qui permet au président de se maintenir au pouvoir sans partage depuis 27 années. Dire non n'est pas une option en Biélorussie, explique le journaliste Ivan Netchepurenko. Car si ce ne sont pas les policiers qui vous tombent dessus, ce sont les différents hommes de main en civil du régime, les espions du voisinage, les fonctionnaires zélés ou bien les jeunes du club de sport d'à côté recyclés en exécuteurs de basse besogne. C'est contre tout cela que les Biélorusses se battent depuis maintenant 3 mois. En plus de se battre, il faut aussi bien le dire, contre l'oubli et l'indifférence que nous leur renvoyons.
Et puis vous citez le New York Times, Camille, mais est-ce bien raisonnable alors que notre président Emmanuel Macron a maille à partir avec ce quotidien ?
Oui, c'est vrai, Emmanuel Macron a des griefs contre le grand quotidien américain. Il accuse sa couverture de l'actualité française de ces dernières semaines, je cite, de légitimer la violence sur des dossiers particulièrement sensibles comme le racisme en France, la manière dont l'islam est traité par le gouvernement, la lutte contre le terrorisme ou encore la lutte contre ce fameux séparatisme dont il est beaucoup question. Le président français a donc pris son téléphone jeudi dernier. Il a personnellement appelé Ben Smith, qui est l'un des correspondants du New York Times à Paris et qui est aussi l'un de ses journalistes les plus renommés. Il l'a appelé donc pour se plaindre de cette presse anglo-américaine, selon lui, qui a l'outrecuidance de pointer les ratés de la politique d'intégration des minorités en France, plutôt que de tout simplement s'apitoyer sur notre république assiégée par les terroristes. Lorsque la France était attaquée il y a 5 ans, a dit le chef de l'État, toutes les nations du monde nous avaient soutenus. Et là, eh bien, il ne comprend pas pourquoi, selon lui, une institution comme le New York Times se permet de dépeindre la France comme un pays raciste et islamophobe. Ces discours-là légitiment la violence, accuse donc Emmanuel Macron, selon qui, je cite, les fondamentaux semblent perdus. Excusez-moi. Alors on se souvient déjà qu'en septembre, le président français avait eu les mêmes critiques contre le Financial Times britannique qui avait accepté de retirer l'article incriminé et de publier une tribune d'Emmanuel Macron en réponse. Le site Politico Europe a lui aussi retiré sur demande de l'Élysée un article qui posait la question, je cite, de la laïcité comme une dangereuse religion française. Cette fois, Ben Smith du New York Times entend les critiques de l'Élysée. Il y répond point par point. Il revendique aussi l'importance de parfois mettre un coup de pied dans la fourmilière et poser avec la distance de l'observateur étranger des questions que les journalistes français retiennent parfois peut-être dans des temps aussi troublés que ceux que nous traversons. Je vous laisse vous faire vous-même un avis sur la question. Le New York Times a eu la gentillesse de traduire son article en français. Je vous mettrai bien sûr le lien sur franceculture.fr à la page de cette revue de presse internationale.
Merci Camille Magnard. Il est 7h42 sur France Culture.